Un grand merci, Madame Françoise Rouleau, d'avoir accepté de témoigner de l'activité artistique de votre mari, Raymond Rouleau, né à Bruxelles en 1904 et décédé en 1981. Comme première question, est-ce que vous pourriez nous raconter à quelle période de sa vie vous l'avez connu et dans quelles circonstances ?
Alors, c'est très long. Je l'ai connu pendant les événements de mai 68, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je chantais du jazz, j'étais chanteuse de jazz dans un quintet, et un assistant de Raymond Rouleau a demandé au leader du groupe si on pouvait venir participer à un des galas que Raymond organisait. Je n'appelais pas Raymond à l'époque, j'appelais Monsieur. Organisé pour les grévistes de l'ORTF, puisqu'il faisait partie du comité de grève des réalisateurs de télévision. Et donc, il a fait le tour pour nous demander à tous si nous étions d'accord, parce que c'était gratuit, nous n'étions pas payés. Alors, évidemment, pour la cause, vous pensez bien que j'ai dit oui tout de suite. Donc, nous nous sommes retrouvés à Vitry-sur-Seine. Il y avait des tas de gens, il y avait Ivry Guitlis, il y avait des tas de gens, bon, très bien. Et il y avait ce monsieur que je trouvais très séduisant, qui s'appelait Raymond Rouleau, qui présentait et qui avait son plan où tous les passages étaient notés. Et alors, donc voilà, alors, donc nous sommes passés et il y a eu un petit problème, c'est que mon pianiste n'était pas arrivé. Et donc, c'est mon copain qui était le leader du groupe, qui était le trompette, qui s'est mis au piano. Alors, je n'étais pas du tout contente parce que je trouvais que je chantais très mal. Je n'avais pas mes musiciens comme habituellement derrière moi. Et puis, ils ont joué, j'ai chanté, enfin, comme on fait dans un groupe de jazz. Et puis, de la coulisse, j'ai vu ce monsieur si séduisant qui disait « Chante-en une autre ». Moi, avec le musicien, on a dit « Bon, très bien ». On s'est concerté très rapidement et on a attaqué une autre. Et puis après, il y a eu d'autres gens. Il y avait Guitlis, il y avait Marcel Amon, il y avait des tas de gens. Et ensuite, le maire de Vitry offrait un vilain mousseux à tous les gens qui avaient participé à cette soirée, pendant laquelle le spectacle était gratuit, comme tous ces spectacles qu'avait organisé Raymond, et les gens donnaient ce qu'ils voulaient pour les grévistes de l'ORTF. Alors, il y avait... ils se vendaient des foulards, des petits badges, de petites cochonneries, enfin bon, voilà. Et donc, au cours de ce petit cocktail, M. Rouleau est venu vers nous et a dit « C'est bien, les enfants, ce que vous faites. Demain, nous sommes à Flins. Est-ce que vous pourriez venir ?» Et les musiciens, comme tous les musiciens, veulent bien jouer sans être payés une fois, mais pas deux. Ils ont tous dit « Ah ben non, moi, demain, je ne peux pas, etc. » Moi, j'étais hors de moi parce que je savais qu'ils étaient libres. Et je leur ai dit ma façon de penser. Et j'ai été voir M. Rouleau. Je lui ai dit « Monsieur, mes musiciens ne sont pas libres. Moi, je le suis. Si vous avez besoin de moi, je me mets à votre service. Enfin, si vous avez besoin, que je vous aide. » Et il m'a dit une chose extraordinaire. « Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, mon ange. » Vous vous rendez compte? Alors, là-dessus, il m'a mis entre les mains d'une de ses assistantes qui m'a donné rendez-vous le lendemain près de la maison de la radio. Nous sommes allés à Flins. Et moi, il m'a collé avec un gars qui était un ingénieur du son de l'ORTF pour faire toute la ville avec un mégaphone et dire ce soir, gala gratuit, etc. Il y avait Catherine Sauvage, il y avait des tas de gens encore connus qui voulaient bien venir pour ces galas. Et voilà, je n'ai pas vu ce monsieur de la journée. Et le soir, on m'a collé une corbeille et je devais vendre des badges de l'ORTF avec des barbelés. Et puis des foulards, toujours tout ça à un franc, parce que c'était des francs en 68. Et donc j'étais dans la salle, Monsieur Rouleau présentait les spectacles et les annonçait, et puis les artistes passaient. Et moi, je me faisais me comportais de telle sorte que les gens ne pouvaient pas ne pas m'acheter. Je me mettais un bout des rangs, je les regardais fixement, et ils m'achetaient. Et puis, à un moment, ce monsieur, je trouvais très séduisant. Et je n'y tenais plus. J'étais très fière quand même de tout l'argent qui s'amassait dans ma corbeille. Donc, je suis à un moment allée dans la coulisse, que c'était, vous savez, une planche, c'était une petite salle, vraiment. Et il y avait Monsieur Rouleau qui était là dans la coulisse. Et j'avais mon panier. Et il m'a dit tout bas, « Dis-moi combien tu as. » Et donc, j'ai vite regardé, j'ai renversé tout ça sur le bord de la scène qui débordait dans la coulisse. Vous voyez, c'était... Et j'avais 300 francs. Et c'était énorme et j'étais très, très fière. Et il m'a dit que c'était très bien. Je suis allée retourner m'asseoir dans la salle. Mais quand même, à un moment, pendant qu'il présentait, il a dit au public, en parlant de moi, « Je ne sais pas comment elle fait celle-là, mais visiblement, vous ne lui résistez pas. » Alors, j'étais déjà très flattée. À la fin, le public est parti et moi, je me suis retrouvée avec tous les gens de l'équipe de M. Rouleau, ses assistants, dont Jean-Claude Denel, qui est le mari d'Yvonne Sassino-Denel, la costumière, qui après travaillait avec Raymond et qui était parmi les assistants de Raymond. Il y avait aussi Pierre Cavassilas, qui est devenu réalisateur. Et Pierre Cavassilas et Jean-Claude Denel m'ont proposé de me ramener à Paris. Et M. Rouleau a dit « Bon, qui je ramène ?» Et il m'a dit « Toi ?» Et ces deux garçons ont dit « Nous, monsieur, on la ramène. » Et j'étais très déçue, je me suis dit « Je ne le reverrai plus. » Donc, ils m'ont même invité à dîner. Enfin bon, je passe. Peu de jours se sont passés et il y a eu un coup de fil d'une assistante de M. Rouleau qui me demandait si, j'ai un petit peu oublié, mais si je pouvais participer. Ah non, c'est lui qui a appelé à la maison et qui voulait que je participe à une opération, etc. Alors moi, j'étais très heureuse parce que j'allais le revoir. Et puis, ça s'est annulé. Il a rappelé pour dire que c'était annulé parce que, vous savez, en 68, il y avait des tas de choses qui se passaient. Et on devait distribuer, je ne sais pas quoi, un journal à une gare, enfin bon, peu importe. Et puis ensuite, son assistante a appelé en disant, voilà, M. Rouleau fait une tournée cet été d'un mois pour les grévistes de l'ORTF, il y aura des tas de gens, et est-ce que tu pourrais venir pour chanter avec tes musiciens? Et j'ai dit, ah non, 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 moi, mes musiciens ne feront jamais une tournée, surtout sans être payés. Et quant à moi, je ne chanterai pas sans mes musiciens, mais je ne peux rien faire d'autre, etc. Et c'est M. Rouleau qui a appelé plusieurs fois à la maison, notamment une fois à 11h du soir, et ma mère m'a dit, tu diras à M. Raymond Rouleau qu'on ne dérange pas les gens à 11h du soir. Et puis voilà, de fil en aiguille, il a obtenu que je participe à cette tournée, c'est-à-dire qu'il m'a demandé de venir à la Maison pour tous, où il avait commencé sa communauté théâtrale en 64, et où il répétait. Alors je suis arrivée, il y avait des tas de gens, des comédiens, etc., qui étaient très... très à l'aise. Et moi, je suis arrivée et il m'a dit tout bas, choisis un texte, je voudrais t'entendre. Alors, j'étais très embarrassée et j'ai trouvé un texte de Boris Vian, un poème de Boris Vian. Et il m'a fait passer ce poème et il a dit, bon, ben, c'est très bien, on le garde. Et petit à petit, il m'a mis dans ce coup-là, il avait sa petite amie de l'époque qui jouait Un mot pour un autre de Tardieu, et il m'a dit, tu vas bien la regarder parce qu'elle reste 8 jours avant nous pendant la tournée et tu la remplaceras. Et il m'a dit, tu vas regarder la scène qui passe, tu vas noter les places et tu reprendras et tu feras un essai. C'est ce que j'ai fait. Et à ma grande surprise, il s'est retourné vers les autres et il a dit, bah, vous voyez, elle ne se pose aucune question, elle est tout à fait nature et c'est parfait. Bon, il m'a dit, c'est très bien, etc. Je passe parce que l'histoire est très longue et... j'ai répété avec eux et de fil en aiguille, je suis partie dans le sud les retrouver parce que moi, je travaillais encore un petit peu pour gagner ma vie. J'avais donné ma démission dans la boîte où j'étais. Et je suis donc allée les retrouver à Dieulefi. Et petit à petit, et après, alors, il m'a fait jouer Un mot pour un autre, il m'a fait travailler le poème de Vian et il m'a fait quand même chanter parce qu'il y avait des musiciens. Et on a été acheter des partitions, et notamment de Michel Legrand, et parce que je lui ai demandé, je lui ai dit que j'aimais beaucoup. Et j'ai fini par chanter quand même, alors que je ne le voulais pas. Et voilà comment les choses se sont passées. Et après, l'histoire d'amour s'est faite. C'est-à-dire, je l'ai beaucoup fui au début, parce que je voulais être sûre que c'était quelque chose de sérieux. Et puis, en rentrant, il a écrit une jolie lettre à ma maman, dans laquelle il demandait ma main. Et il a téléphoné chez ma sœur où était maman, ma sœur m'a élevée, et il a appelé et ma sœur lui a dit, est-ce que vous avez remarqué, monsieur, que vous êtes beaucoup trop âgée pour Françoise? Et il a dit, oh mon Dieu, madame, je le sais, j'en suis désespérée, qu'est-ce que je peux faire? Et elle a été très dure et à la fin, elle lui a dit, ceci dit, je vous admire beaucoup. Et je lui ai dit, bon, ben, ça va, c'est gagné. Et donc après, on est allé dans ma famille et voilà. Voilà comment les choses ont commencé.
Ah, mais c'était une belle histoire d'amour. Donc, c'est finalement son activité pendant mai 68 qui vous a permis de l'approcher, de le connaître. C'était donc un homme engagé, Raymond Rouleau.
Oui.
Alors, il s'est impliqué dans d'autres choses, dans la guerre d'Espagne, dans la résistance, dans mai 68. Qu'est-ce que vous savez à propos de cette activité d'homme engagé ?
Déjà, ce que je sais, c'est que c'était quelqu'un qui n'aimait pas qu'on en parle. En ce qui concerne la résistance, il n'en parlait jamais et il le minimisait beaucoup. Il disait qu'il avait porté des lettres. Mais voilà. Bon. Pour la guerre d'Espagne, eh bien, il déjeunait. C'était bien avant, c'était donc bien avant la guerre. Et il déjeunait avec sa seconde femme et il a entendu ce qui se passait en Espagne, Franco, etc. Il s'est levé, il est allé à la radio, il a fait un appel, il a demandé des camions, des couvertures, des choses chaudes. Il s'est trouvé à la tête de je ne sais pas combien de camions et il est parti pour l'Espagne. Et il a fait ça, les communistes n'étaient pas contents parce qu'il a fait ça en franc-tireur comme tout ce qu'il a toujours fait dans sa vie. Il a sauvé la vie de milliers d'enfants en Espagne. Je n'en sais pas beaucoup plus parce que lui ne m'a jamais rien raconté. Et que je l'ai su par une rencontre un jour à Paris dans un bistrot de quelqu'un qui lui a dit mon commando, je ne sais pas quoi, et qui m'a dit « Madame, vous ne savez pas, il y a des millions d'enfants qui lui doivent la vie. » Et je n'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est que pendant la guerre contre l'Allemagne, enfin, il était en France, donc il s'est engagé, il était engagé volontaire, il avait la médaille des engagés volontaires. Et il était dans les brigades sanitaires du front parce qu'il ne voulait pas être dans une arme. Il ne voulait pas dégringoler qui que ce soit. Il voulait faire la guerre d'une autre façon. Et il a fait des choses d'un courage absolument insensé dont lui n'avait pas conscience d'ailleurs. Et je n'ai simplement lu que la citation de la Croix de guerre dont il ne m'a jamais parlé, que j'ai trouvée toute seule par hasard un jour en rangeant des papiers, où on disait qu'il demandait les tâches les plus difficiles comme si c'était rien du tout. Et il a fait des choses d'une... Il partait la nuit, tout faisait teint. Il a fait des choses très, très, très... Il a été prisonnier, fait prisonnier par les Allemands. Il a été prisonnier à Pouilly-sur-Loire. Je sais qu'il était recouvert de galles. Ça, c'est tout ce que je sais. Dans ses actions... Oui, j'ai toujours dit que Raymond était un homme de gauche... Pardon de dire ça, mais c'est sans aucun prosélytisme ni connotation vraiment religieuse, bien que ça en soit une. Mais je disais que le Christ était un homme de gauche pour moi. Et Raymond était un véritable homme de gauche. Il n'agissait que par le cœur. C'est ça pour moi, un homme de gauche. Il ne s'occupait que des autres, jamais de lui. Mais c'était une démarche superbe. L'être humain était superbe. Superbe, d'humanité, c'était un grand humaniste. Il a sorti des gens de prison, il a payé lui-même l'avocat pour une jeune femme à qui il est arrivé une chose horrible, elle s'est disputée avec son amant, elle avait un couteau à la main, il s'est embroché sur ce couteau, il est mort, et elle a été mise en prison. Et c'est Raymond qui savait qu'il la connaissait très bien, je ne dis pas son nom parce qu'elle est un peu connue. Et c'est Raymond qui, sachant qu'elle n'y était vraiment pour rien, il a pris un avocat à ses frais. Cet avocat lui a dit, il y a une chose, il faut la faire passer pour folle. Et elle sortira relativement vite. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai su un jour, tout à fait par hasard, en allant dans une boutique, en faisant un chèque où il y avait écrit Madame Raymond Rouleau sur mon chéquier. Et la jeune femme m'a dit, mais vous êtes la femme de Raymond Rouleau, mais telle personne n'arrête pas de dire qu'elle lui doit la vie. Et c'était cette femme... cette comédienne, chanteuse, qui l'avait fait sortir de prison alors qu'elle avait tué pour la justice son amant. Et c'était un grave accident. Et il a fait plein de choses comme ça, de même qu'il a fait une aide à l'enfance malheureuse, comme je vous ai raconté. C'est-à-dire qu'il y avait des enfants qui étaient martyrisés par les parents. L'organisation n'était pas faite comme aujourd'hui où vous avez SOS Enfants battus, etc. Et il était très connu pourtant à l'époque, mais il travaillait seul avec une assistante sociale. Il allait sortir de chez des parents qui martyrisaient leurs enfants, les enfants. Il s'en occupait complètement et il avait fondé un journal qui s'appelait, l'aide à l'enfance malheureuse ou quelque chose comme ça. C'est difficile pour moi, c'était bien avant la guerre, puis je ne le connaissais pas, même après la guerre, je ne le connaissais pas. Et donc pour récolter un peu des fonds, je pense. Et il s'en est beaucoup occupé. Et au bout de 2 ans, il a dû s'arrêter parce qu'il ne pouvait plus rien faire d'autre. Il n'arrivait plus. Il avait quand même 3 enfants. Il fallait qu'il fasse vivre tous ces enfants-là. Et l'aide à l'enfance malheureuse, il prenait... on venait beaucoup le chercher la nuit, surtout. C'est à n'importe quel moment, voilà.
Merci beaucoup. Parlons maintenant un peu de son enfance. Il est né dans un milieu... Il est né à Bruxelles, dans un milieu défavorisé. Est-ce qu'il évoquait... sa mère, sa ville natale, qu'est-ce que vous savez de cette période de sa vie ?
Il évoquait beaucoup et sa mère et sa ville natale. Il est né d'un milieu très simple, non intellectuel. Mais sa maman, qui a fait des ménages pour faire vivre ce petit garçon et qui s'est mariée un peu plus tard avec un monsieur Rouleau qui a adopté Raymond et qui lui a donné son nom, il a fait ses études à Bruxelles. Il a vécu complètement à Bruxelles. Je sais qu'il avait une grand-mère qui était de Liège, qui était flamande. Il avait des ascendants flamands. Et je sais que sa maman, Raymond était très près de la nature et sa maman l'emmenait dans toutes vos forêts sublimes et lui a donné le goût de la nature. Et puis, elle avait vu que cet enfant n'était pas comme tout le monde. Et elle l'a fait rentrer aux Beaux-Arts. Elle l'a inscrit aux Beaux-Arts. Il est rentré, il a fait les Beaux-Arts. Et à 15 ans, avec une dispense, il est rentré au conservatoire. Et c'est comme ça, tout a démarré de là. Mais son vrai métier, ne l'oubliez jamais, c'était la mise en scène. Il a été comédien par hasard. Ça s'est trouvé comme ça. Mais c'était très bien. Mais Bruxelles, tout est parti de Bruxelles pour lui. Le groupe Libre, Jules Delacre. Sa ville, il l'aimait beaucoup. Il était enfant de cœur et tous les dimanches que je vous racontais, il se retrouvait sur les marches de l'église parce qu'il se trouvait mal tellement il était l'encens, etc. Ça le faisait s'évanouir d'émotion. Il avait une émotion telle que tous les dimanches, il se retrouvait sur les marches parce qu'il se trouvait mal. Et Bruxelles, il m'a beaucoup parlé de Bruxelles et il habitait... avec sa maman, je ne sais pas où, dans une maison, lui dormait dans une sorte de grenier, je ne sais quoi. Et sa maman le laissait le soir pour aller travailler dans un café où il y avait, je crois, un lion ou un énorme animal. Et ce petit garçon, à, je sais pas, à 4-5 ans, une fois, il avait couru la nuit pour aller chercher sa maman parce qu'il était affolé et sa maman avait été très bouleversée. Et il se rappelait de ça. Il y avait... Bon, je ne sais pas où c'était parce que... Il en parlait, mais il se racontait très peu. Bruxelles était une ville très importante pour lui. Il aimait, sa maman l'emmenait, il aimait beaucoup aller se baigner en Belgique, dans des mers très froides. Il pouvait se baigner dans des eaux très froides. En France, il adorait l'eau. L'eau, c'était un élément dans lequel il était complètement à l'aise. Hein. Et il aimait beaucoup Bruxelles. Ouais. Il en parlait beaucoup. Il était très attaché à des tas de choses, aux caracoles qu'on vendait dans la rue, aux anguilles. Enfin, moi, j'aimais pas ça. Les anguilles, l'anguille au vert, hein, les plats. Voilà. Il en parlait beaucoup, beaucoup.
Et Monsieur Charles Vonk, je crois.
Fonck.
L'a un petit peu découvert.
C'est-à-dire que oui, c'était. Il y avait deux intellectuels. Il y avait Charles Vonk et quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas son nom, puisque je n'ai que les lettres de Charles Vonk. Qui a vu que ce petit garçon avait des dispositions incroyables et il l'a pris complètement en main pour son éducation intellectuelle. Parce que Raymond, la scolarité de Raymond, ça ne lui convenait pas du tout. Les professeurs, etc., en Belgique ne lui convenaient pas du tout. C'était pas du tout, il s'embêtait, il était malheureux, il souffrait beaucoup, c'était un enfant très sensible. Donc ça ne l'intéressait pas du tout. Et ce monsieur Vonk a complètement demandé aux parents de Raymond de prendre en main l'éducation de leur fils. Et il lui a donné toute une éducation. Et par la suite, en rentrant au conservatoire, en rencontrant des gens, un monsieur dont j'ai oublié le nom, pourtant que j'ai connu, très âgé, qui lui a fait découvrir des auteurs. C'est vraiment un autodidacte, Raymond, on peut dire, presque, parce que c'était un homme d'une culture immense, c'était un grand standalien. C'était un homme très, très, très cultivé, mais qui ne faisait absolument montre de rien. Mais Charles Vonk, oui, a été très, très important. Et là, je vous donne des lettres Une en tout cas, l'autre, je vais la retrouver, où il parle des progrès faits par cet enfant, etc. À ses parents.
Des petits spectacles aussi, enfant, oui.
Oui, quand il était enfant, Raymond me disait toujours qu'il ne croyait pas à la vocation. Bon, appelons ça comme on veut. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord parce que j'ai appris que quand il était enfant, il donnait des petits spectacles pour ses petits amis dans le jardin de sa maman. Il payait une bille comme droit d'entrée et il gardait les papiers de couleur, comme la gélatine dont on se sert pour les projecteurs, dont il s'est beaucoup servi parce que c'était un grand éclairagiste. Et il faisait des spectacles qu'il éclairait et il mettait des petites lampes électriques dans des trous qu'il recouvrait avec les papiers de couleur et il éclairait ces petits spectacles comme ça et les petits amis assistaient au spectacle. Et quand je disais à Raymond, mais tu vois bien que c'est ça la vocation, il disait non, non, je n'y crois pas. Donc il ne croyait pas à la vocation.
Venons-en maintenant à son travail artistique, peut-être à quelques réalisations plus précises. Commençons par l'avant-guerre, c'est une période que vous avez peu connue, mais peut-être en parlait-il. Au Théâtre du Marais, animé par Jules Delacre, il interprète de nombreux rôles. Puis il fonde le groupe Libre, aux accents surréalistes. Il y met notamment en scène la seule pièce qu'il ait écrite, L'Admirable Visite. Ouais. Puis il va à Paris, travaille avec Pitoyev, Dulin, revient à Bruxelles fonder le Nouveau Marais. Et c'est là, grâce à une pièce « Le mal de la jeunesse », qu'il part à Paris et qu'il est propulsé. Est-ce qu'il vous a un petit peu parlé de ces personnes, ce personnage mythique que sont Nord, Jules Delacre, Pitoyev, Dulin ?
Bien sûr. Bien sûr. D'abord, Jules Delacre. Vous avez simplement oublié une personne essentielle, comme ça faisait partie des gens qui avaient été... Allons. Maître, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est le mot qu'on peut employer, mais qui l'ont vivement influencé, c'est Antonin Artaud.
Ah oui.
Artaud a été essentiel comme influence dans le travail de Raymond. Antonin Artaud a été très important. Alors, en ce qui concerne Jules Delacre, je suis triste parce qu'aujourd'hui, personne ne sait qui est Jules Delacre et vous devriez faire, vous, en Belgique, les Belges, vous devriez faire quelque chose pour faire savoir qui est Jules Delacre, parce que Jules Delacre était un très grand homme de théâtre. Moi, j'en ai entendu parler par des gens qui ne sont sûrement plus là aujourd'hui et qui considéraient Jules Delacre était un très, très grand homme de théâtre. Donc, Raymond a fait sa première mise en scène professionnelle chez Jules Delacre. Il avait 18 ans, avec des acteurs professionnels comme Madame Simone. Il a été co-directeur du Théâtre du Marais avec Jules Delacre. Il a monté Steve Passer, il a monté Marcel Achard, et c'est tous les deux qui, venant voir ce jeune metteur en scène, ce qu'il avait fait de leur pièce, sachant que Charles Dullin cherchait un jeune premier qui venait de se suicider, ont vu ce jeune homme qui jouait et qui faisait et qui mettait en scène, ont trouvé qu'il y avait là quelqu'un d'absolument exceptionnel. Ils en ont parlé à Charles Dullin, il est venu à Paris, il est resté 5 ans chez Dullin, il a été le jeune premier de la troupe de Dullin. Et alors, il est arrivé, il me racontait toujours, la première fois où il est arrivé, il mettait les pieds en France pour la première fois de sa vie, il est arrivé au foyer de Dullin, à l'atelier, et il a vu Stravinsky, Pirandello, Picasso, enfin des gens comme ça. C'était quelque chose qui m'impressionnait beaucoup. Donc, il est resté 5 ans chez Dulin, chez qui était Antonin Artaud comme comédien. Et Raymond m'expliquait que le matin, il y avait les cours. L'après-midi, il répétait. Le soir, il jouait. Et à minuit, il partait répéter avec Artaud. Il a créé l'officier du songe de Strindberg, qui a été quelque chose de très important. Et Artaud a été quelqu'un de considérable dans sa vie. Et alors, ce qu'il y a, c'est que Dulin était très fâché de cette sorte de trahison que Raymond ait travaillé avec quelqu'un d'autre. Et il n'appréciait pas du tout que Raymond ait travaillé avec Antonin Artaud. Et voilà. Alors, il a donc travaillé aussi avec les Pitoyev, qui l'adoraient. Il disait que Georges Pitoyev, il prenait les draps du concierge, la chaise du concierge pour faire son décor, ses costumes, etc. Et il a joué dans Hamlet, il a joué Rosencrantz ou l'autre, ou Guildenstern, je ne sais plus. Et il a travaillé donc chez les Pitoyev. Et l'admirable visite qui a été créée en Belgique, l'Uniepo, le grand Lunier, voulait la monter. Et par fidélité à Charles Dullin, Raymond la lui a donnée, et ça a été un flop. Et moi, j'ai lu l'admirable visite, et c'est extraordinaire. C'est d'aujourd'hui, enfin, c'est écrit aujourd'hui. Hein?
Fin des années, début des années 30, dans le courant des années 30, il est à Paris. A-t-il obtenu de suite la célébrité ? Je crois qu'il fait la connaissance alors de Françoise Dugane, qui quitte pour lui un mari avec qui elle vient d'avoir une petite fille. Et il aura d'elle plusieurs fils.
Deux fils, oui.
Deux fils. Qu'est-ce que vous savez de cette période de sa vie ? Bon, évidemment, vous ne l'avez pas connue à ce moment-là. Mais...
Ah non, mais ce que je sais, donc le mal de la jeunesse, effectivement, après Dulin, je retourne un petit peu en arrière là. Hein. Après les 5 ans passés chez Dulin, il est retourné en Belgique, puisque Jules Delacre lui a laissé le Théâtre du Marais, qu'il a fondé le groupe Libre avec Nord. Vous savez ça mieux que moi, parce que moi, c'est difficile un peu pour moi de parler de ce que je n'ai pas connu, mais de quelques souvenirs que j'ai. Il a fondé avec Georges Norge, qui est Maugin. Et il a monté le mal de la jeunesse avec les acteurs belges, Madeleine Auseret, Jean Servais, Lucienne Lemarchand, plein d'autres. Et il est venu auditionner à Paris. Et ils sont restés avec le mal de la jeunesse, je ne sais pas, il y a eu un nombre de... C'était un événement considérable. C'était la première fois que des acteurs jouaient avec l'âge des rôles. Alors, c'était la pièce de Bruckner, qui était un écrivain juif allemand. C'était une pièce complètement... C'était nouveau, c'était d'avant-garde. Et c'est là où Raymond a explosé. On n'avait jamais vu ça, déjà, dans la mise en scène. Le jeu, la direction d'acteur... je crois que c'était un événement considérable. J'ai vu ça dans les press-books, hein, parce que lui n'en parlait pas, mais c'est avec le mal. Alors, il y avait encore des salons littéraires. Il était invité partout. Tout d'un coup, il est devenu quelqu'un de très important. Et en 32, il avait 28 ans. Édouard Bourdet, qui a été administrateur de la Comédie-Française, qui était l'auteur dramatique et qui était directeur du théâtre de la Michaudière, lui a demandé de monter La Fleur des Pois. Il a créé La Fleur des Pois en 1932 à la Michaudière avec des immenses acteurs, immenses. Et puis, bien d'autres choses. Sa carrière a démarré, mais je crois qu'il était déjà très... Il avait été très repéré à Paris quand il était chez Dulin, je crois. Où il était avec Henri Guizol, avec Henri Guizol, il dormait dans une soupente, et à côté, il y avait une autre soupente où on mettait du charbon. Ils avaient toujours peur qu'un jour, les gars se trompent et mettent le charbon dans leur petite chambre. Et il me racontait que la chambre était si petite que quand il voulait sortir, il y en avait un qui montait sur le lit pour mettre son manteau pendant que l'autre attendait. Et ils n'avaient pas le rond, hein. Dulin les payait, Dulin n'avait pas d'argent. Et il mangeait tous les jours du gratin dauphinois, donc il ne fallait plus lui parler du gratin dauphinois, il n'en pouvait plus. Et c'était une vie... Enfin, on ne peut pas imaginer, et il me racontait que souvent, le soir, ils allaient se balader, donc à Montmartre, là, ils voyaient qu'ils dominaient tout Paris, et avec Guizol, ils disaient, tu te rends compte, dire qu'un jour, tout cela sera à nous. C'est devenu, oui. Henri Guizol aussi a fait une très jolie carrière. C'était aussi un comédien... merveilleux, que moi j'ai connu, j'ai tourné avec lui dans Tim. C'était quelqu'un de merveilleux. Tout ça sont des gens qui sont un peu oubliés. Il est mort, je ne sais pas, il y a 20 ans, par là, peut-être, je ne sais pas.
Il a mis en scène aussi Les Races.
Les Races
à un moment
de Bruckner, voilà.
Tout à fait d'actualité.
Voilà, c'est-à-dire que Raymond donc est devenu acteur de cinéma. Il a été demandé par le cinéma, qui était très mal vu par les acteurs de théâtre. Hein. C'était vraiment, on faisait ça pour gagner sa vie, le cinéma. Et il a tourné en 32, par là, au moment de la montée du fascisme en Allemagne, parce qu'il n'y avait pas Hollywood, c'était la DEFA ou la UFA. On tournait à Berlin, c'était là où étaient les grands studios. Donc il a tourné pas mal là. Et il a vu la montée du fascisme. Et il est rentré, il a vu qu'on cassait les vitrines des magasins juifs, etc. Il est rentré en France après son tournage et il a monté Les Races de ce même Bruckner, qui était un juif allemand qui avait fui l'Allemagne pour des raisons évidentes. Et il a monté Les Races, qui était une pièce contre le nazisme que Bruckner avait écrite. Et il était à l'époque l'amant d'une grande comédienne qui était la femme d'un célèbre patron de presse. Donc il était sur la liste noire de ce journal. Et ce grand patron de presse a écrit un article où il disait que M. Raymond Rouleau avait vraiment tout compris et il avait encensé ce travail qui était vraiment... C'était pas prémonitoire, puisqu'il avait vu la montée du fascisme. Et toute sa vie, il a lutté contre ça. Ça a été... Et c'est pour ça que chez vous, en 69, il est venu monter pour la télévision belge-française la pièce de Qui part, Joël Brandt ou l'histoire d'une affaire, qui est l'histoire des camions échangés contre des juifs. C'est, il a tourné ça ici. C'est très dur parce qu'il y a là-dedans, il a pris des stock shots d'Hitler et de choses, d'images très très dures du nazisme qu'il a inclus dans son tournage. Et un jeune assistant monteur disait mais monsieur, comment vous avez fait tourner ça? J'ai rien vu. Et il disait mais non, mais c'est réel, c'est vrai. Et ce jeune garçon qui n'avait rien connu. Était complètement effaré de voir ça. C'est insoutenable. Pour moi, c'est insoutenable. Oui, oui.
Pendant la guerre, que fait-il ? En 1944, il crée Huis Clos de Sartre. Oui. Puis Sartre lui fait lire Le Diable et le Bon Dieu, qui finalement, ce sera Jouvet qui mettra oui. en scène.
Oui, c'est-à-dire que le mari de Gaby Sylvia, qui s'appelait Annette Badel, avait le théâtre du Vieux Colombier. Et il avait lu Huis Clos, il était tombé fou de cette pièce, et ce monsieur Annette Badel lui a dit, voilà, je n'ai pas un sou, et Raymond a dit, ça ne fait rien, je vais le monter. Et il l'a monté sans être payé, avec Tania Balachova, qui avait été sa première épouse. Il a été peu de temps marié avec elle. Il avait 19 ans quand il l'a épousée, elle était au conservatoire de Belgique, de Bruxelles, avec lui. Et avec Tania, avec Gaby Sylvia, Michel Vitold et Jean-René Chauffard. Donc, ça a été quelque chose de très important. Et ce qui est très drôle, c'est que beaucoup d'années après, puisque moi, j'étais mariée avec lui, quand Gaby Sylvia a su qu'il avait fait ça sans être payé par son ex-mari, elle a dit, mais quel scandale, il était richissime et tu t'es fait avoir. Voilà. Donc, mais ça, c'était Raymond. La pièce supplésée, il l'a montée. Voilà. Alors, Sartre aimait beaucoup Raymond. Et un jour, il l'a amené chez La Pérouse. Il lui avait donné rendez-vous avec Lila de Nobili, qui était la grande décorateur, costumière, créatrice de costumes de Raymond, qui a été sa collaboratrice pendant 30 ans, qui était un grand peintre, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et il avait un salon particulier et il a commencé à leur lire Le Diable et le Bon Dieu. Et 4 heures après, il mourait de faim. Il a fermé en disant fin de la première partie. Bon, alors, enfin, je passe. Ils ont un peu mangé quelque chose. Et Sartre, la lecture a donc duré 8 heures. Et Raymond a dit à Jean-Paul Sartre, Jean-Paul, votre pièce m'intéresse énormément, mais elle est trop longue, il faut couper. Et ils en ont beaucoup parlé à plusieurs reprises et Sartre a toujours refusé. Et Raymond a dit qu'il ne montrait pas la pièce dans ces conditions, que ce n'était pas possible, qu'il y avait des coupures à faire. Et Sartre a trouvé Jouvet, qui a accepté de monter ça, mais qui lui a dit « il faut couper ». Et comme c'était la énième fois que Sartre n'arrivait pas à faire monter sa pièce, parce qu'elle était trop longue, il a écouté Jouvet, qui a fait des coupures. Et voilà, voilà comment ça s'est passé.
Il y a une petite jalousie entre Jouvet et Raymond Rouleau. Enfin,
C'est-à-dire que la jalousie, oh, c'était charmant. Raymond a été avec Madeleine Auzeray. Ils étaient très proches, ils étaient au conservatoire. Madeleine était très jolie et Raymond aimait beaucoup les jolies femmes. Et il a commencé une carrière amoureuse. C'était un tout jeune garçon. Et il avait été donc avec Madeleine Auzeray. Et après, quand Jouvet a été fort amoureux de Madeleine et ils ont été ensemble, il était jaloux de Raymond. Et Raymond était très triste parce que c'était fini que Raymond n'avait jamais aimé Madeleine. Il l'avait beaucoup aimé. C'était bon, et puis il y avait eu une histoire entre eux, mais pour Raymond, vous savez, ça comptait pas beaucoup, beaucoup, sinon qu'il aimait beaucoup Madeleine, mais c'était tout, il l'aimait pas. Et Jouvet était très jaloux parce que Madeleine parlait sûrement beaucoup de Raymond, puisque je sais qu'à une radioscopie de Chancel, elle a parlé de Raymond et elle a dit « Quand je l'ai vu, j'ai pensé que c'était la beauté sur Terre » et elle a beaucoup parlé de Raymond. Et puis, moi, je sais que Dans un amour de jeunesse, moi, j'ai connu Madeleine à ce moment-là où elle était une dame âgée. Et on a tourné ensemble. Et c'était... Moi, j'aimais beaucoup Madeleine. Et je continuais beaucoup à aller la voir chez elle, Rosa Bonheur. Et Jouvet, effectivement, était jaloux. Et Raymond était désolé. Et puis, ils se sont retrouvés un peu à la fin de la vie de Jouvet. Tout ça était fini. Et malheureusement, Jouvet a disparu. Mais Raymond aimait beaucoup Jouvet, qui était, comme il disait, un très grand animateur de troupe. Mais il pensait que ce n'était pas un directeur d'acteur. D'ailleurs, le fond de troupe n'était pas très bon chez Jouvet. Mais il a eu la chance de trouver des comédiens formidables, de faire réécrire à Giraudoux ses pièces. Et c'était un grand animateur. Je ne parle pas de son talent de comédien, mais comme metteur en scène, bon, il y a des tas d'histoires qu'on raconte, mais qui sont réelles. Et je pense que ce n'était pas un directeur d'acteur, vraiment. Parce qu'un metteur en scène, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un directeur d'acteur.
Pour éviter un petit peu de se disperser dans ces souvenirs, c'est tellement immense, cette carrière, on pourrait peut-être parler de l'attirance de Raymond Rouleau pour les auteurs américains. Il a monté dans les premiers, notamment Tennessee Williams, Arthur Miller. Qu'est-ce que vous pourriez nous raconter James. À ce propos?
C'est lui qui a amené le théâtre américain en France, effectivement. Les papiers d'Asperne que Michael Redgrave avait tiré de James. Raymond était très jamesien, il aimait beaucoup Henry James. Effectivement, il a amené le théâtre américain en France, point. Avec les auteurs que vous venez de citer. Alors Tennessee Williams, il a monté donc Le Tramway avec Arletty. C'est ce que je vous ai raconté, l'histoire avec Marlon Brando qui est venu en proposant à Raymond de montrer ce qu'il faisait lui dans Le Tramway. Il a apporté son costume au comédien qui jouait son rôle en France, qui était le partenaire d'Arletty. Et puis, il a montré une scène. Et il y a été de tout son cœur, tellement de tout son cœur, qu'il s'est démis une épaule en donnant un grand coup de poing dans un élément du décor, enfin dans le mur du plateau. Et Raymond a dû l'emmener à l'hôpital. Voilà. Et donc, il a monté ça. Tennessee était très heureux. Et après, il a voulu monter La Descente d'Orphée, toujours avec Arletty et Jean Babilet. Il disait qu'il sautait comme un chat. Et il a fait l'adaptation. Et Tennessee Williams adorait Raymond. Il lui a donné les droits pour la France d'Orphée. On me demande, je dis de La Descente d'Orphée. Au cinéma, c'était... C'est encore Marlon Brando qui l'a joué, je ne sais pas quoi, le mot serpent dedans. Bon, j'oublie. Enfin, ça ne fait rien. Et j'ai des lettres. Tennessee Williams adorait Raymond, adorait son travail, de même qu'Arthur Miller. Je me rappelle que quand Raymond avait monté Les Sorcières de Salem avec Montand et Signoret, et puis un jour, tous les trois, en se baladant sur les quais de Seine, ils ont dit si on en faisait un film. Donc, ils se sont mis en participation et le film s'est tourné en Allemagne de l'Est à l'époque. Bien. Et il a monté en 71 le prix d'Arthur Miller. Là, j'étais mariée avec lui et j'étais son assistante, ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Alors, il y avait donc Jean Rochefort, Pierre Mondy, Claude Dauphin et Yvette Etiévant. Et Arthur Miller est venu voir une des dernières répétitions. Il n'arrêtait pas de prendre des notes. Et à la fin, il a dit à Raymond, bon, on se voit. Ils sont partis tous les deux discuter dans le bureau de Larchmidt qui à l'époque était le producteur, le directeur du théâtre et incidemment le mari d'Ingrid Bergman. Et les comédiens étaient complètement affolés et Yvette Etiévant dit oui, non mais c'est insensé, il est en train de dire des choses épouvantables de nous, il devait les dire devant nous, etc. Et Raymond est redescendu tout seul et il a dit, mes enfants, Arthur Miller, la pièce s'est jouée dans le monde entier et il a pris des notes parce qu'il veut que tout le monde reproduisent. Bon, c'était Fiorella Mariani, la nièce d'Ingrid, qui avait fait le décor, mais c'était Raymond qui avait 10 de décor qu'il voulait exactement, comme toujours. Et il avait trouvé les idées de Raymond formidables, il avait tout noté, et il avait dit que c'était la plus belle représentation de la pièce qu'il avait vue dans le monde. Voilà. Alors, il a monté Miller, il a monté donc Henry James, il a tourné pour la télévision Le destin de Priscilla Davis, qui était tiré de la nouvelle Dans la cage de Henry James. Et il a aussi mis en scène et joué, parce qu'il faisait toujours les deux. La fille dans la vitrine, c'est ce que Grace Kelly avait tourné. D'ailleurs, elle est venue le voir à ce moment-là, et qui s'appelait au théâtre, je ne sais plus le titre, tout ça, c'était... j'étais pas dans la vie de Raymond, c'est difficile. Hein, bon. Donc, il a monté beaucoup d'auteurs américains. Il a monté notre petite ville de Thornton Wilde. Il a monté beaucoup de choses. Il a amené tout le théâtre américain en France.
Et c'était l'aspect concret de ce théâtre il en parlait de ce qui l'attirait dans ce type de théâtre.
Je ne peux parler là que de James ou de Tennessee. Il aimait quand il... Mmh. Vous savez, il savait... Il ne parlait pas beaucoup de tout ça. Il était attiré. James, pour lui, était un grand écrivain. C'était tout un univers qui lui convenait, comme Tennessee Williams. C'était un univers qui lui convenait. Les sorcières de Salem, ça correspondait. Il n'y a qu'à lire La nostalgie n'est plus ce qu'elle était que Simone Signoret a écrit. Il y a 10 pages qu'elle consacre aux sorcières et donc, par conséquent, à Raymond, et où elle explique. Parce que Miller avait écrit ça en réaction contre le macartisme, la chasse aux sorcières, n'est-ce pas? Et pour Raymond, ça rentrait complètement dans ses idées et il leur expliquait. C'est ça la direction d'acteur. Il faut aussi, il expliquait aux comédiens par rapport à ce qui venait de se passer pendant la dernière guerre, par rapport au nazisme. Il leur racontait le macartisme. Il leur racontait tout ça et il expliquait tout ça. Donc c'était ses idées aussi, n'est-ce pas? C'était toutes les causes contre lesquelles il s'est battu en toute discrétion et sans le faire savoir.
C'est donc tout un travail d'adaptation aussi oui. qu'il a réalisé. Et ça, je crois qu'on n'en prend pas encore totalement la mesure. Il a aussi adapté Anna Karénine de Tolstoï. Sa dernière mise en scène fut Thérèse Raquin de Zola, dans laquelle vous avez participé. Cette passerelle entre écriture, dans le sens d'adapter, et travail de direction d'acteur, comment le vivait-il?
D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les adaptations des pièces que Raymond mettait en scène, qui pouvaient être signées d'autres gens, c'était toujours Raymond qui les faisait. Donc, il y avait un producteur qui disait « Oh, bah oui, tout le monde sait que toutes les pièces que Raymond met en scène, que Rouleau met en scène, sont adaptées par lui, même si elles sont signées par d'autres, donc elles sont remarquables, ce qui ne veut pas dire que l'adaptateur est bon, puisque c'est Rouleau qui le rend bon, puisque c'est lui qui le fait. Si bien qu'à la fin de sa vie, moi, j'ai vraiment demandé à ce qu'il signe lui-même ses adaptations. Et quand il a monté La fraîcheur de l'aube d'Herb Gardner, encore un Américain, il avait monté Les clowns par milliers avec Yves Montand, Michael Lonsdale, etc., Marlène Jobert, qui avait fait ses débuts à cette occasion. Il a fait les débuts de Marlène Jobert et de bien d'autres. Et... ça allait de soi qu'il fasse adaptation. Comme les Lumières, il disait, est-ce qu'un peintre va demander à quelqu'un d'autre de mettre les couleurs? C'est pareil, on peut dire que... Là, je parle pour lui, mais on peut dire que c'est la même chose pour le texte. Il aimait une pièce, il avait envie de la mettre en scène, elle avait besoin d'être adaptée. Lui savait. Et puis, vous savez, Raymond était un poète. Raymond écrivait d'une façon superbe. Il a écrit... pas mal de choses en réalité. C'était quelqu'un qui ne se mettait pas en avant. Il disait qu'il était un artisan. Il avait la chose à faire. La chose à faire. Voilà. C'était quelque chose qu'il disait beaucoup. Il disait aussi qu'il était un franc-tireur. Il voulait pouvoir faire beaucoup de choses différentes parce qu'il était, il avait envie de tout faire. Tout ce qui l'intéressait, il avait envie de le faire. Et il y avait la chose à faire. Par exemple, une mise en scène, qu'elle soit pour l'image ou pour le théâtre, pour l'écran ou pour le théâtre. Qu'est-ce qu'il y a autour d'un spectacle qu'on monte? Il y a l'écriture, bien sûr. Ça va de soi. Et regardez, Jouvet a fait réécrire ce que je vous disais, ces pièces à Giraudoux. Les pièces de Giraudoux n'auraient pas été ce qu'elles étaient. Un metteur en scène était capable de faire réécrire à un auteur sa pièce. Ça, c'est un metteur en scène digne de ce nom. Je pense qu'il n'y en a plus beaucoup maintenant. Raymond était un littéraire. Raymond était un poète. Le poète est visionnaire. S'il vivait encore aujourd'hui, il y a bien des choses qu'il avait dit et qui se réalisent maintenant. Il y a des écrits, des choses qu'il laisse qui sont extraordinaires à ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'il n'y a, je ne sais pas qui est le metteur en scène qui est capable aujourd'hui de faire retravailler un auteur sur sa pièce.
Venons-en peut-être maintenant aux auteurs français. Donc, il était belge, il était depuis de nombreuses années en France, mais il y a toujours le fait de se coltiner au grand. Hein, du théâtre français. Il a monté l'École des femmes de Molière, La guerre de Troie n'aura pas lieu et Ondine de Giraudoux. Quels étaient ses rapports avec cette grande littérature française?
Raymond disait toujours qu'il n'avait pas le temps de lire les romans qui sortaient parce que lui ne croyait que dans les grands auteurs et disait qu'il n'aurait jamais assez de toute sa vie pour les lire. Je vous l'ai dit, c'était un stendhalien. Mais il disait Racine, il disait Molière. Il était tout le temps dans les auteurs et il disait que les livres étaient sa seule consolation. Et que quand ça n'allait pas, il prenait un livre et il disait... Il parlait toujours des valeurs permanentes. De même qu'il disait, la chapelle Sixtine, c'est une belle affaire, hein. Ça marche depuis des siècles et puis c'est pas prêt de s'arrêter. Bon, voilà. Donc, Raymond était un grand classique. Il aurait évolué aujourd'hui, bien sûr. Mais que ce soit en peinture, en musique, en littérature, c'était un grand classique. Et je vous dis, il ne cessait d'évoluer. Aujourd'hui, il aurait encore évolué. Il aurait eu 100 ans le 4 juin 2004. Il aurait 100 ans le 4 juin 2004. Il aurait eu, oui, on est à la fin de 2004, il aurait eu 100 ans, oui, c'est bien ce que je dis. Mais il n'aurait cessé d'évoluer, il a évolué. Moi, les 15 ans pendant lesquels on durait ma vie avec lui, il n'a pas cessé d'évoluer, à tout point de vue. Donc il aurait encore évolué.
Vous m'avez dit qu'il peignait aussi, c'était des peintures un peu dans quel style?
Figuratif, pas du tout abstrait. Pour lui, il se considérait comme un peintre du dimanche. Il ne voulait surtout pas montrer ce qu'il faisait. Je pense qu'il avait beaucoup de qualités. Il avait fait les Beaux-Arts et il expliquait qu'il avait un professeur qui était terrible parce que quand il travaillait une peinture, un dessin, je ne sais pas moi, quand ce n'était pas bon, il mettait deux grands coups de crayon noir et ça y est, c'était à recommencer. C'était terrible. Et il n'avait pas le droit de se servir d'une gomme. Et il me racontait ça, si vous voulez, de même qu'il avait, écrit des vers, et il avait été très vexé, parce que, je ne sais pas qui était ce professeur, qui lui avait dit, il y a un très beau vers là-dedans, il était tout jeune, c'était peut-être Fonck, enfin, et il avait été très vexé, mais en réalité, c'est magnifique, il y a un très beau vers quand on a 15 ans, quand on écrit un poème, c'est magnifique, mais il avait été horriblement vexé.
Venons-en peut-être maintenant au cinéma.
Oui.
Il a joué dans de très nombreux films, il en a réalisé d'autres, sans faire une filmographie, parce que c'est peut-être pas le lieu, mais qu'est-ce qui vous revient comme souvenir concret, comme flash à ce propos de sa carrière cinématographique?
Alors, déjà, à propos de sa carrière cinématographique, c'est un peu le hasard. Il est devenu notre jeune premier de l'après-guerre. Henri Chappie a fait un très joli hommage après sa mort en disant qu'il était notre Cary Grant. Et qu'il avait il a joué déjà un personnage qui était l'ancêtre de Lemmy Cohen, qui s'appelait Georges Masse. Il a tourné une série de films avec André Unebel. Il faisait les cascades lui-même, c'était de la folie. Moi, j'aurais été dans sa vie, j'aurais jamais accepté. Mais il se trouvait très mauvais à l'écran. Il se trouvait pas bien du tout physiquement en plus. Bon. Et il y avait deux films qu'il reconnaissait. C'était les deux metteurs en scène avec qui il avait travaillé, qui étaient son ami Jacques Becker, avec qui il a tourné Falbala, que Becker avait écrit pour lui, et Dernier Atout, et Pabst, avec qui il a tourné le drame de Shanghai. Il avait été l'assistant de Pabst et tourné. Parce qu'à l'époque, on tournait version française, version allemande. Eh bien, Pabst avait tourné, par exemple, la version allemande d'un de ses films, lequel je ne le sais pas. Et Raymond tournait la version française. Pabst lui avait confié ça. Il a fait plein de métiers, Raymond. Il a été l'assistant de Pabst, il a même été directeur de production. Je ne sais pas quand ni sur quoi. Ce qui lui permettait de savoir regarder un budget et de dire, il n'y a que moi, si j'ai le budget, qui peut savoir ce qui est indispensable et ce qui ne l'est pas à mon travail. Qui sait ce qu'on peut supprimer et les choses auxquelles je tiens absolument. Ouais. Donc le cinéma, c'est très difficile. C'était un métier qu'il n'aimait pas. Je vais vous dire, le métier de comédien, ce qu'il ne supportait pas, Raymond, comme il était une vedette de cinéma, parce que c'était ça, les jeunes filles de l'époque avaient la photo dans leur chambre, etc. Il ne supportait pas toute la considération dont est entourée une vedette de cinéma et qu'on n'a pas pour d'autres rôles. Il était très malheureux de ça. C'était pas son truc. Il n'avait pas une mentalité d'acteur. Il n'était pas nombriliste. Son vrai métier, c'était, je vous le répète, la mise en scène. Il a commencé sa première mise en scène professionnelle à 18 ans et il n'a cessé d'être metteur en scène. Et puis, bon, bah oui, il a tourné des films, c'est vrai. Mais les pièces dans lesquelles il jouait, il les avait mises en scène aussi. Ce qui était rarissime. Et je vous signale qu'il a eu deux fois le prix Dominique de la mise en scène pour deux spectacles dans la même année. La première année, ça devait être Cyrano de Bergerac en France, pas en Italie, et Les Sorcières de Salem. Et la deuxième fois, j'étais dans sa vie, c'était pour Adrien VII et avec l'Autriche, qu'il a monté parce qu'il avait une représentation en Belgique avec l'acteur qui joue Adrien VII, qu'il a engagé dans Joël Brandt. Et pour Adrien VII et pour Le Songe de Strindberg, monté à la Comédie Française. Voilà.
C'est étonnant, cette école de la vie aussi. Vous m'aviez parlé, là, à midi, de ces petits boulots qu'il faisait pour gagner de l'argent, là, quand il était jeune homme, alors.
Oh, il était très, très jeune. Il est rentré à 15 ans au conservatoire. Sa maman n'avait pas beaucoup d'argent. Il voulait gagner sa vie, alors il faisait des petits boulots. Alors, par exemple, à un moment, il voulait vendre des aspirateurs. Alors, il sonnait chez une dame, il avait de la poussière dans un sac, hop, par la porte entrouverte, il balançait de la poussière et il disait « Madame, ce n'est rien, attendez, donnez-moi une prise » et il aspirait. Bon, je ne sais pas s'il en a vendu beaucoup. Et alors, le plus dur qu'il ait fait, c'était de vendre du cirage en poudre. Et il a dû s'arrêter parce qu'il y en avait partout, c'était une horreur. Enfin, bon. Et puis alors, quand il avait 15-16 ans, il avait une petite phrase à dire dans une tournée, mais le petit garçon a tout faire de l'homme qui faisait la tournée. Et il disait que lui mourait de faim et qu'il allait chercher des huîtres pour le directeur de la tournée de l'autre côté de la rue qui se faisait engueuler s'il renversait l'eau des huîtres. Voilà.
Venons-en maintenant à la télévision. Est-ce qu'il aimait la télévision ? Il a réalisé en 1969, vous en avez déjà un peu parlé, un téléfilm à Bruxelles. Mm-hmm. Vous avez le bonjour d'André Debar,
ouais.
qui a participé. Quels étaient ses contacts avec la télévision ?
Pour André Debar, plein d'amitié à André Debar. Alors, la télévision, bon, déjà, Raymond, ayant tourné comme metteur en scène de cinéma, quand il est arrivé à la télévision, où Jean Capin, lui a demandé s'il voulait bien faire Hedda Gabler, il est venu le voir en lui demandant s'il voudrait réaliser Hedda Gabler, que Raymond avait monté au théâtre avec Ingrid Bergman et Claude Dauphin, qui avait été un énorme succès. Et il était un grand, grand, grand ami d'Ingrid. Et Jean Capin est venu le voir en demandant à Raymond s'il accepterait de faire une réalisation d'Hedda Gabler et si Lila de Nobidi accepterait d'en faire les décors et les costumes. Et alors, Raymond était intéressé partout. Donc, pourquoi pas Hedda Gabler en plus, c'est beau. C'est une belle pièce. Et alors, il a été... pendant quelque temps sur un tournage auprès d'un réalisateur. À l'époque, on travaillait à quatre caméras. Et puis, au bout de quelques jours, ben, ça y est, il avait pigé. Et c'était le premier réalisateur venant du cinéma. Les réalisateurs venant du cinéma n'arrivaient pas. Ils ne savaient pas faire marcher quatre caméras. Ce n'est pas si évident. Et vraiment, il n'y a eu aucun problème. Donc, il a tourné Hedda Gabler avec Delphine Seyrig. Moi, j'ai vu... Il y a eu un hommage à Delphine Seyrig à la Maison Simone de Beauvoir où on a projeté ce film que moi je n'avais pas vu. Et c'était de la pellicule magnétique qui était dans un état épouvantable. Et moi j'en étais malade et tout le monde m'a dit « mais c'est magnifique, c'est merveilleux, quel jeu moderne, quelle belle réalisation ». Et moi je ne voyais qu'une pellicule très abîmée parce que l'INA ne protège pas, n'a pas peut-être le temps de remettre en état tous les chefs-d'œuvre qu'elle a. Et donc, la pellicule magnétique s'abîme beaucoup. Donc, il a monté Hedda Gabler. Après, il a monté Les Papiers d'Asperne. Et puis, il y a eu toutes les grèves de 68. Donc, ça s'est repris après, vers 69, par là. Il y a même un professeur dans une académie de beaux-arts, je ne sais plus quoi, d'Italie, qui a dit que Raymond Rouleau tournait dans des décors naturels Les Papiers d'Asperne, qui se passe en Italie. Or, ça, il avait été reconstitué en studio la Sala. Dans un palais vénitien, il y a la Sala, c'est la pièce où le bateau arrive et où les gens arrivent par la Sala. Et Jean-Marie Simon, qui faisait partie de la, ce ce qu'on appelle la mafia de Lila, c'est-à-dire c'était le fils spirituel de Lila de Nobili. Donc, il avait fait le décor pour la télévision, il avait reconstitué, ils avaient été à Venise tous les deux, et ils avaient, bien sûr, ça c'était pas le fruit du hasard, ils avaient fait leur repérage, et Raymond avait dit ce qu'il voulait à Jean-Marie, qui avait reconstitué des pièces d'un palais vénitien. Ça avait été pris sur celui des Brandolini, qui étaient des amis de Raymond, le palais Brandolini à Venise, et il y avait un décor absolument extraordinaire, et si on le voit, on pourrait croire que c'est tourné effectivement en Italie. Et donc, il a fait donc ça après, après Dagabler. Donc, il a fait les papiers d'Asperne qu'il avait montés au théâtre il y a très longtemps, au théâtre de Mathurin. Il y avait Marie-Christine Barrault. Il y avait Lucienne Bogart qui a repris son rôle. Il y avait Pierre Vernier qui a repris son rôle. Et Robert Rimbaud qui jouait le rôle de Raymond. Et puis, Louise Amaris. Enfin, il y avait des gens qui étaient de l'époque de la création quand même. Et puis après ça, il a fait beaucoup de télévision, dont l'École des femmes dont vous parliez avec Isabelle Adjani. Il cherchait une Agnès. Et Serge Rousseau, qui était agent chez Armédia, lui avait signalé cette petite fille, Isabelle Adjani. Il a dit, il y a une petite que vous devriez voir, Raymond. Donc Raymond était au théâtre de Paris. Et un jour, il a reçu cette petite jeune fille qui a passé une scène de l'École des femmes. Il m'a dit pour la première fois de sa vie, il m'a demandé de me planquer au Théâtre de Paris, ce qui était facile, c'est un navire, et d'écouter parce que c'était tellement incroyable qu'il ne pouvait pas penser que c'était vrai. Et donc, je me suis mis tout au fond de la salle et j'ai vu une petite fille arriver avec son cartable, ses chaussettes, son petit manteau bien sage. Petite fille qui était en première, elle avait 16 ans et demi, voilà. Et j'ai vu cette petite Isabelle Adjani passer une scène de l'École des femmes. Alors au début, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Et puis tout d'un coup, oh, incroyable. Et quand ça a été fini, elle a dit au revoir monsieur, elle est repartie. Et il m'a dit alors, je n'ai jamais entendu ça. Il m'a dit, ah bon, bah, ça va, je ne me suis pas trompée, c'était tellement incroyable, je pensais que je m'étais trompée. Et donc Isabelle a tourné l'École des femmes avec Bernard Blier qui jouait Arnolf. Vous avez la cassette que je vous ai passée, qui passe souvent à la télévision. Et à la suite de ça, Pierre Duc cherchait une Agnès parce que Jean-Paul Roussillon devait le monter avec lui en Arnolf. Et Raymond lui a dit, tu engages Isabelle Adjani, bien évidemment, je te le conseille. Donc Pierre l'a écouté. Il a simplement demandé à Raymond que la Comédie Française, qu'il sorte son spectacle avant que Raymond sorte son tournage. Enfin, donc Raymond a demandé à Pierre Sabac de différer la diffusion de l'École des femmes. Donc, la Comédie Française est sortie avant. Presque en même temps, Robert Hossein s'est intéressé à cette petite... Parce que tout le monde savait que quand Raymond s'intéressait à quelqu'un, c'est que ce n'était pas pour rien. Donc, Isabelle, ça a été très vite, mais il y avait aussi la beauté d'Isabelle, les qualités exceptionnelles d'Isabelle. Et Robert, un jour, a appelé à la maison. Il montait un Lorca, qui devait être la maison de Bernarda d'ailleurs, et il était à Reims. Il a demandé à Raymond ce qu'il en pensait d'Isabelle, et Raymond lui a dit oui, très bien, et il l'a pris pour la plus jeune fille de la maison de Bernarda, je ne sais plus le nom du personnage, et nous sommes d'ailleurs allés à Reims, Isabelle est venue nous chercher, et quand Robert dit que c'est lui qui a découvert Isabelle, je dis tout de suite c'est faux, et ce n'est même pas Raymond. Serge Rousseau l'avait vue, elle avait un tout petit rôle dans Faustine ou le bel été qu'avait fait Nina Companese. Et donc, c'est Raymond lui a été un tremplin, a été un détonateur. Mais les qualités, il disait toujours que un acteur, les qualités d'un acteur. Bon, ben de toute façon, elle aurait sûrement fait une carrière. Mais Raymond était un découvreur de talent. Audrey Hepburn, bien d'autres, puisque les Montand n'avaient jamais mis les pieds sur une scène de théâtre, ni Yves ni Simone. Bon. Et plein d'autres. Mais en ce qui concerne Isabelle, je dis bien, bon, d'accord, c'est Raymond qui a été déterminant, mais Nina Companese avait fait tourner Isabelle dans Faustine, où le bel été, elle avait un tout petit rôle.
Justement, je voulais vous parler de ses rapports avec les célébrités et la célébrité. Il a travaillé avec Édith Piaf, Montand et Signoret, vous l'avez dit, et il a été aussi aux USA. mmh. où il réalise Gigi. Quels étaient ses rapports avec ce monde de célébrité ?
Ben, vous savez, d'abord, il n'avait pas cette notion de célébrité. Bon, lui, c'était un artisan, il avait son travail à faire, il avait des comédiens qui soient célèbres ou non, quelle importance ? Raymond Rouleau était bien célèbre, il savait pas qu'il était étonné quand on le reconnaissait. Il voyait pas, il se disait que c'était pas vrai qu'on l'avait pas reconnu. Donc voyez, bon, alors Édith Piaf, il a fait La Petite Lily, musique de Marguerite Monnot. C'était la première comédie musicale, comme il dit, qui s'est faite, et il avait eu l'idée, les micros à chef n'existaient pas, de mettre pour Édith Piaf une succession de micros sur scène. Pour qu'elle puisse chanter et bouger en même temps. Il l'a mise aussi en scène dans Le Bel Indifférent. Et à la suite du Bel Indifférent, ça, c'est un de ses anciens assistants, Gérard Kéris, qui m'a dit ça, je ne le savais pas. Édith Piaf faisait un tour de chant et c'est Raymond qui avait éclairé le tour de chant. Et ça, je ne le savais pas. Raymond ne me l'avait pas raconté. Donc, dans La Petite Lily, il y avait les débuts de Robert Lamoureux. Il y avait aussi Eddie Constantine que Édith Piaf aimait beaucoup, beaucoup à l'époque. Et Raymond lui disait, écoute, il n'est pas très bon. Elle avait dit, oui, je sais, il est mauvais, mais je l'aime. Bon, et il a vécu, Édith Piaf, il disait que c'était épuisant de travailler avec elle parce que la nuit, elle ne pouvait pas se coucher, donc elle l'emmenait. Et c'est comme ça qu'elle l'emmenait chez elle un soir. Elle voulait absolument lui faire entendre une chanson pour voir ce qu'il en pensait. C'était les clowns. Et il y avait un jeune homme qui était au piano, c'était Charles Aznavour. Et cette chanson est devenue un succès extraordinaire. Et Raymond lui avait dit que c'était magnifique. Elle lui faisait, voilà. Donc, je pense qu'Édith Piaf aimait énormément Raymond. Énormément. Alors, Gigi, maintenant. Gilbert Miller était le plus grand producteur de théâtre aux États-Unis. Aux États-Unis, ça ne se passe pas, je ne sais pas comment en Belgique, mais pas comme en France. C'est-à-dire qu'il y a des théâtres, un producteur va louer un théâtre. Il n'y a pas un directeur de théâtre et des spectacles qu'il monte dans ce théâtre et qu'il produit. Il y a des producteurs ou des gens qui ont de l'argent qui vont louer le théâtre. Bien. Et Gilbert Miller était un célèbre, très célèbre producteur de théâtre et il avait demandé à Raymond de monter Gigi de Colette, adapté par un grand auteur qui était Anita Loos. Et Raymond, évidemment, allait avec Lila Nobili pour faire les décors et les costumes. Petite anecdote, les baguettes de pain arrivaient par avion tous les jours pour la représentation. Parce qu'il fallait des baguettes de pain. Maintenant, on en trouve aux États-Unis. Et donc, il fallait trouver une Gigi. Et un jour, Colette a télégraphié à Raymond et trouvé notre Gigi. Elle avait repéré une petite jeune fille qui dansait, qui était une danseuse au... Je crois que c'était les ballets de Paris ou je ne sais pas où, quoi, ou de Monte Carlo. Elle était à Monte Carlo en tout cas. Les ballets de je ne sais pas quoi, de Monte Carlo, peu importe. Et c'était cette petite Audrey Hepburn. Donc très bien, Raymond est venu la voir. Et puis, ok, il a engagé avec l'accord de Colette, notre grande Colette. Et il est donc parti aux États-Unis où il a vécu avec femme et enfant, c'était sa seconde épouse, Françoise Dugagne, ses deux fils et sa belle-fille, qui était sa fille Anne Charton, maintenant, elle s'appelle Anne Charton. Et Audrey, les répétitions ont commencé. D'abord, il a passé deux auditions. Les plus grands ont défilé et il disait que c'était effrayant, qu'il ne savait pas comment choisir, il savait tout faire. Il savait danser, les Américains savaient tout faire. Bon. Et il y avait Kathleen Nesbitt, il y avait des grands comédiens là-dedans. Et il avait un assistant qui parlait français. Audrey parlait français, puisqu'elle est de mère belge. Et alors, au début des répétitions, Audrey Hepburn sortait tous les soirs, faisait la fête, enfin, tout allait bien. Et elle ne fichait rien. Elle ne travaillait pas son texte, elle ne travaillait rien du tout, elle ne savait pas son texte. Au bout de 8 jours, Raymond l'a pris seule en tête à tête, lui a passé le savon, qui a été déterminant, dit par elle-même, par Audrey, pour toute sa vie. Il lui a appris à travailler. Il lui a dit que ce n'était pas possible de sortir comme ça. Il fallait qu'elle travaille. Et il a vraiment... Et il a dit que c'était extraordinaire, que le lendemain, tout était changé. Et à partir de là, bon, les répétitions, d'abord, Raymond était très heureux dans le travail aux États-Unis parce qu'il demandait une chose une fois et il ne la demandait pas deux. Ça, c'est merveilleux. Avant de venir à Broadway, on faisait un tour, une sorte de tournée pour roder la pièce. La critique n'avait pas le droit de venir Et ça permettait à Anita Loos, tous les soirs, elle mettait des béquets après la représentation dans les chambres des comédiens pour le lendemain, parce qu'elle faisait, elle changeait des choses. Et jamais un critique ne se serait aventuré à venir à une des représentations hors Broadway, parce qu'il aurait été rayé du syndicat de la critique. Et Raymond me disait qu'il y a eu la première à Broadway. On ne peut pas imaginer aujourd'hui, on voit dans les press-books, il y avait mais les plus grands d'Hollywood, d'Amérique, etc., les acteurs. C'était incroyable, incroyable. Raymond ne me l'a jamais raconté. Et il m'a raconté juste une chose, c'est qu'à 2h du matin, Gilbert Miller l'a appelé en lui disant « on a un très bon... » Il y avait une célèbre critique qui était très méchante et qui avait fait un papier extraordinaire. Il a dit « c'est gagné », etc. Et le lendemain matin, quand Raymond est allé à son théâtre à 7h du matin, parce qu'il avait sûrement un petit truc à faire, il a vu... Alors, avant, il y avait écrit « Gigi de Colette », mise en scène, etc. Avec, toc, 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 tous les comédiens. Il y en avait des bien plus célèbres qu'Audrey. Et il a dit « le lendemain matin, je suis arrivé au théâtre et devant la critique que Gilbert Miller avait eue vers 2h du matin, il y avait en énorme Audrey Hepburn dans Gigi ». Voilà. Et Audrey Hepburn a dit dans toutes ses interviews qu'il lui avait tout appris. Elle lui a été fidèle toute sa vie. Ah oui.
Vous avez dit souvent que c'était vraiment un travailleur. Vous parliez, je ne sais plus si c'est vous, Madame Charton, de 13 jours sans se coucher.
Oui, c'est possible.
Moi. Mmh. C'est possible.
Bien sûr, certainement. Quand il a... Parce qu'il a fait... Menotti crée le festival de Spolette, je ne sais pas en quelle année, il y a très longtemps, je n'étais pas dans la vie de Raymond. Et il lui a demandé à lui, à Visconti et à Robbins de faire l'ouverture de ce festival. Et comme il m'a dit, ils m'ont ruiné, mais ça a lancé mon festival. Et Raymond a monté l'Arlésienne. Et il faisait les 3-8. Il y avait les chœurs qui venaient de Palerme ou de je ne sais où. Il y avait les comédiens, il y avait la technique, c'est-à-dire les lumières. Donc, il a fait 13 jours et 13 nuits sans dormir. Lila de Nobili tombait dans les panières en dormant. Elle dormait dans une panière de costume la nuit. Il a fait 13 jours et 13 nuits sans se coucher. Et après ça, il a fait 8 jours et 8 nuits pour un autre spectacle, je ne sais plus lequel. Et un jour, il traversait la place de Spolette et il est tombé. Et il s'est retrouvé à l'hôpital, il s'est réveillé. Et les médecins ont dit oui, ben, il avait simplement besoin de dormir. Ce n'était pas un coma, il avait besoin de dormir. Ah oui, c'était... Il y avait une résidence. Mais ça, c'est quand on est belge avec des ascendants flamands, il y avait une énergie. Mais d'ailleurs, vous savez, il était gémeaux ascendant lion et il avait vraiment une tête de lion avec sa crinière blanche. Et il y avait une énergie, une vitalité prodigieuse parce que même malade, il a pu travailler. Personne ne pouvait se douter de rien puisqu'on ne le disait pas. Il n'y a qu'à la fin où les gens voyaient qu'il n'était pas bien. Mais je veux dire que c'était prodigieux. Raymond pouvait travailler jour et nuit. C'était... Il y avait la chose à faire. Toujours la même chose. Est-ce que l'artisan s'arrête de faire son travail? Est-ce que le peintre laisse sa toile quand il ne peut pas la laisser? Non, bien sûr. S'il faut qu'il peigne jour et nuit une toile, il ne va pas la laisser. C'est pareil.
Vous m'avez parlé aussi des petits mots dont il assaisonnait son travail. C'est du sucre, nous sommes pressés, allons lentement. Je crois que c'est des petites choses, mais c'est assez...
C'est-à-dire que quand il était content, la grande distinction, c'était le sucre. Alors, il y avait le sucre filigrané or, qui était la distinction suprême. Et quand il était content, il disait « du sucre, mes enfants ». Et alors, dans Adrien VII, il y avait des petits-enfants qui jouaient les petits-enfants de cœur. Et un jour, ils ont dit « Monsieur Rouleau nous parle toujours de sucre, on n'en voit jamais ». Alors, il m'a chargé d'aller vite leur acheter des bonbons. Parce que, voilà. Alors, il y avait le sucre. Alors oui, bah, il disait « Oh, bah, tous les gens qui ont travaillé avec Raymond, il y a beaucoup de phrases qui circulent, que Raymond disait « Oui, allons lentement, nous sommes pressés ». Nous ne nous endormons pas sur des lauriers qui ne sont pas coupés. Quand il y avait eu quelque chose que vous savez bien, oh bah, pendant la répétition, nous ne nous endormons pas sur des lauriers qui ne sont pas coupés. Bon, il ne fallait pas se relâcher. Il y avait plein de. C'était sans arrêt. Il y avait plein de phrases comme ça. Là, elles ne vont pas me revenir. Vous m'en soufflez une, alors elles me reviennent.
Tu t'en sors, James,
ou... Ah oui, alors, oui. Alors ça, c'était. Raymond adorait les jeux de mots. Tu t'en sors comme James, James s'en sort, etc. Il y en avait quelques-uns. Tu rigoles bol pour André Boll. Il y en avait quelques-unes comme ça, mais ça, il adorait ça. Mmh. Il citait beaucoup, parce qu'il y avait un célèbre producteur qui s'appelle Rich B., qui faisait des pataquès. Il était célèbre pour cette pataquès. D'ailleurs, Henri Janson l'appelait Pauvre C. Et alors moi, quand j'ai connu Raymond, avec des gens, n'importe qui ne le connaissait pas, disait, oh oui, il ne s'en sort ni des lèvres ni des dents. Et moi, je disais, ok, bête, j'étais un peu gênée. Il faisait exprès. Les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces pataquès? Et Raymond adorait faire ça. Il adorait, c'était même pas mystifié, mais il s'en fichait. De même, je vous ai raconté qu'il a fait une interview pour un journaliste d'un pays de l'Est qui, pendant toute l'interview, l'appelait Edmond Roubaud. Et je lui ai dit, mais enfin, tu n'as pas dit que c'était ton vrai nom était Raymond Roubaud. Il m'a dit, oh non, c'était bien trop amusant. Ah oui, il n'avait lui-même... Il prenait très au sérieux ce qu'il faisait, mais lui ne se prenait pas du tout, du tout, du tout au sérieux. Et comme il avait ce physique superbe avec ses cheveux blancs, c'était un homme très timide. Il passait pour un ours, il passait pour plein de choses. Il n'était rien de tout ça. C'était un homme d'une grande chaleur, puisque je lui disais toujours qu'il était du sud de la Belgique, qu'il était très méditerranéen de la Belgique du Nord, parce qu'il était vraiment. Mais c'était quelqu'un, oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Il ne se prenait pas du tout au sérieux. Comment voulez-vous, je ne sais pas en Belgique, mais en France, Raymond Rouleau? C'est pas possible qu'il ne se prenne pas au sérieux, Raymond Rouleau. Vous voyez, la femme de Raymond Rouleau doit être très snob, très femme de... Non, c'est pas possible, on est comme on est. Il n'y a pas à composer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, il faut laisser ça à ce qu'on appelle, entre guillemets, les ringards. C'est pas un bel aspect d'un métier de création. L'humilité, c'est pas mal.
Il a été aussi un grand professeur.
Oui.
Il a donné des cours à l'IDEC, donc l'Institut des hautes études cinématographiques. Mmh. Et vous m'avez dit qu'il reversait son salaire à la communauté théâtrale.
Oui, c'est-à-dire qu'il a fondé en 64. Il a voulu faire quelque chose comme il a fait toute sa vie pour des jeunes metteurs en scène qui ne trouvaient pas de travail. Donc, il a monté la communauté théâtrale, d'où sont partis plein de gens, à commencer par Ariane Mouchkine, qui est le plus grand metteur en scène maintenant qu'on a en France. Elle a tout compris au théâtre. Grande, grande, bonne femme. Et donc, il a monté la communauté théâtrale, d'abord qui était à la Maison pour tous, rue Mouffetard. Le quartier Mouffetard n'existait pas, Raymond l'a lancé. Et après, il a fondé de ses mains le théâtre de l'Épée de Bois. Et ils ont été rue de l'Épée de Bois. Maintenant, c'est une école pour petits-enfants, une école primaire dans le 5e arrondissement. Et c'est lui qui a fait vivre la rue Mouffetard. D'ailleurs, vous avez des questions de Grenadine, il faudra que je vous en parle. Parce que concurremment à ça, il avait une émission de radio. Il y avait des questions de Grenadine. Grenadine, c'était une petite fille. Et qui posait à Raymond Rouleau, c'était lui, des questions. Et qui, comme ça, il parlait des spectacles. C'était les questions de Grenadine. C'était une émission de radio et qu'il avait fait. Et de même, il les jouait sur la place de la Contrescarpe, la jalousie du Barbouillé, où il disait les femmes avec leur sac de marché venaient là regarder et il donnait des représentations. Voilà. Et donc, et concurremment à ça, alors ils étaient tous, ils avaient tous le même salaire. Ils étaient tous anonymes, y compris Raymond, mais il avait été vite repéré. Et quand les spectacles marchaient, ils étaient repris dans des théâtres à Paris. Et il m'a dit, tout Paris est venu se crotter les jambes dans mon terrain vague du théâtre de l'Épée de Bois. Parce qu'il n'avait pas eu de l'argent, mais il demandait des projecteurs, des chapiteaux pour faire son théâtre, des sortes de petites guitounes pour faire la caisse, etc., vous voyez. Et comme toujours en France, comme il était complètement désintéressé, on ne pouvait pas penser que c'était ça, il ne se reconnaissait qu'une chose, c'était un droit de veto. C'est-à-dire quand ce n'était pas bon, il interrompait un spectacle. Il ne voulait pas que le spectacle sorte. C'était la seule chose, mais autrement, il était comme tout le monde. Mais vous savez, pour les Français, quelqu'un comme Raymond Rouleau, qui faisait quelque chose comme ça d'une façon désintéressée, c'était suspect. Et très vite, ça a tourné d'une façon pas très agréable et il a arrêté. Lui, il s'est retiré de tout ça. Mais effectivement, à ce moment-là, il était professeur à l'IDEC, qui est maintenant devenue la FEMIS, c'est la même maison. Et il reversait intégralement son salaire à la communauté théâtrale. Mais comme là, il était bénévole, il continuait à faire son travail de metteur en scène. Il faisait ses mises en scène. C'était une époque où il a beaucoup fait de mises en scène lyriques en Italie. Il a beaucoup travaillé en Italie, où il a manqué beaucoup de choses, à la Scala, au Maggio, Fiorentino. Il a monté beaucoup de choses en Italie. Et donc, il allait, il venait. Mais la communauté théâtrale, il s'en est vivement occupé, je vous dis, reversé donc son salaire, effectivement, de l'IDEC.
C'est donc à la fois de travailler avec, je veux dire, aux bases du théâtre, dans des conditions parfois difficiles, mais aussi monter des choses à la Comédie française. Il a monté le Songe. C'était une volonté comme ça de tenir les deux bouts de...
Non, c'était quand on lui proposait quelque chose, il s'enthousiasmait, c'était quelqu'un de très enthousiaste. Mais il était aussi bien enthousiaste par la nature, par un oiseau qui se perchait sur notre volet à la campagne, qui venait nous dire bonjour le matin quand on prenait notre petit déjeuner. Il disait que c'était là la vraie vie, que tout était là. Bon, et bien pour le théâtre, Pierre Dux lui propose le Songe de Strindberg. Il rêvait de le monter depuis qu'il avait joué chez Artaud. Il a aussi monté pour la Comédie française Henri IV de Pirandello. Il a monté donc Ondine avec Isabelle Adjani parce qu'il devait monter Ondine. Pierre Dux lui avait demandé ce qu'il voulait monter. Il avait dit Ondine. Et alors, ça devait être Nicole Calfan qu'il avait choisi. Il ne connaissait pas encore Isabelle. Et il connaît Isabelle et il me dit quel dommage, elle aurait fait une Ondine magnifique. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Parce qu'Isabelle étant rentrée aux Français entre-temps, par son intermédiaire, et puis Nicole vient lui dire, Raymond, j'ai à vous dire, il l'avait mise en scène dans la reprise de Ruy Blas. Et Nicole, qui l'aimait beaucoup, avec qui il a beaucoup travaillé, vient lui dire, Raymond, je quitte le Français. Ben, il a dit, c'est comme ça. Et il a pu engager Isabelle dans Ondine. Et donc il a monté Ondine, qu'est-ce qu'il a monté d'autre ? Donc Ruy Blas, il l'a monté deux fois. Il l'a monté une première fois, je ne le connaissais pas. Qu'est-ce qu'il a monté d'autre ?
Henri IV, on
m'avait dit. Henri IV de Pirandello. Oui, ça c'était à l'Odéon, mais ça appartenait à la Comédie française. Ben voilà. À Le Verdo de Scribe, qu'il a réécrit complètement. Et alors je disais à Pierre Dux, ah ben oui, Scribe qui a toujours écrit avec Le Gouvet, ce coup-ci on peut dire que c'est de Scribe et Rouleau. Et Pierre ne voulait pas que ça sache. Raymond avait complètement réécrit Le Verdo, et alors c'est très politique, et il y a eu une représentation pour tout le gouvernement. C'était sous Giscard d'Estaing. Et tout le monde a dit, oh là là, ça va être terrible, les comédiens étaient affolés. Et jamais j'ai entendu une salle, moi j'étais dans la salle, rire autant, et tous ces ministres, etc. Et Giscard, tout le monde a ri. Ah, c'était un magnifique spectacle, c'est quand la Comédie française était au Théâtre Marigny. C'était magnifique, magnifique. Ah ouais. Puis je cherche, je crois que c'est tout ce qu'il a monté. Oui, il a repris donc Ruy Blas sous Pierre Dux. Il l'a tourné parce que Pierre Dux a fait de l'Odéon un studio que Raymond a inauguré, ce qui a permis de faire changer le parquet. Et la première chose qu'il a tournée, c'était Ruy Blas. Et l'embêtant, c'était que dans une scène d'amour, on entendait le parquet qui craquait. Quand Ruy Blas fait une déclaration d'amour à la reine, c'était embêtant. Donc, la deuxième fois, Raymond a fait refaire le parquet. Donc, voilà. Alors, donc, il a tourné pour la Comédie française, pour Pierre Dux, Ruy Blas. Le Verdo, il n'a pas voulu le faire parce que Pierre Dux ne lui donnait pas assez de temps et qu'il a refusé de le faire. Donc, c'est Jean-Claude Denel qui l'a tourné. Il a demandé que ce soit Jean-Claude. Ça, je ne l'ai pas vu. Et puis, Robert Hossein avait monté Hernani et il a demandé à Raymond de le tourner pour la télévision. Et Raymond a dû refaire toute la mise en scène de Robert parce que la mise en scène de Robert au théâtre, c'était infilmable. Les acteurs tournaient tout le temps le dos. Donc, il y a eu toujours des répétitions. De toute façon, Raymond répétait toujours tout, que ce soit film ou télévision. Je pense que c'est Becker et Pabst qui lui ont appris beaucoup ça. Les grands metteurs en scène ont toujours répété leurs films. Et donc, je me rappelle, il y a eu beaucoup de répétitions pour Hernani et il a complètement refait la mise en scène de Robert, qui était très heureux. Et là, il l'a réalisé. Et alors, à la Comédie française, on vend... Il a aussi tourné Ondine, bien sûr. Et on vend donc dans les cassettes vendues à la Comédie française, entre autres, il y a Ondine, qui marche très très fort, Ruy Blas et Hernani. Ondine marche très fort, il y a Isabelle Adjani, Jean-Luc Boutet. Ruy Blas marche très fort aussi, c'est superbe.
Au niveau des auteurs d'avant-garde de l'époque, vous m'avez dit qu'il a refusé Les Nègres de Genet, il ne sentait pas. De même, sentait pas très bien non plus Thomas Bernhardt, le président.
Alors, ça, c'est autre chose. Là, je vous interromps, parce qu'en ce qui concerne les nègres, Jean Genet, pour qui il avait la plus vive admiration et qui était aussi dans la mouvance autour de Raymond, Cocteau, plein de gens comme ça. Jean Genet est venu lui apporter les nègres, il lui a lu, mais ce qu'il y a, c'est que Jean Genet, en même temps, indiquait la mise en scène. Et Raymond lui a dit, Jean, moi, si vous savez tellement bien la mise en scène que vous voulez, moi, j'ai besoin d'avoir les mains libres. Vous pouvez après me faire des observations si ça ne va, si c'est pas dans le sens que vous souhaitez. Mais vous connaissez tellement bien, vous savez tellement la mise en scène que vous voulez, je ne peux pas faire ça. Il trouvait la pièce magnifique. Mais ça, c'était Raymond. Genet lui indiquait une mise en scène, il respectait tout à fait que Genet veuille qu'on applique ce qu'il souhaitait comme mise en scène. Mais Raymond ne pouvait pas. Alors, en ce qui concerne Thomas Bernhardt, la première pièce, Guy Tréjean lui avait demandé de monter le président. C'était la première pièce de Thomas Bernhardt. Raymond n'a pas senti la pièce. Il a dit à Guy, tu as tort de jouer ça, ça ne va pas marcher, c'est pas bon. C'était pas bon. Et Guy l'a joué, je ne sais plus qui l'a mis en scène. Bon, mais ça peut arriver. Hein.
Puis chacun aussi, ses affinités.
Il a refusé des pièces après, il s'est dit, tiens, j'avais pas vu la pièce comme ça quelquefois. Il pouvait aussi. C'était quand même pas Dieu tout-puissant, Raymond. Hein. Il pouvait. Je sais qu'il y avait une pièce. Guy Tréjean lui avait demandé avec Feuillère de monter une pièce. C'était le bateau pour l'Ipaya que Paul Quentin avait adapté. Raymond n'a pas du tout vu la pièce. Il y a pas ça. On est allé voir la pièce au théâtre des Champs-Élysées, si je me souviens bien. C'était remarquable. Et Raymond a dit à Guy Tréjean, je ne t'aurais jamais vu là-dedans, c'est remarquable, je suis désolée. Bon, mais il a... Voilà, je vous dis, c'était pas le bon Dieu quand même, Raymond.
Est-ce qu'il aimait aller en bateau? Est-ce qu'il aimait la mer, le bateau?
Oui. Oui, oui. D'abord, il aimait la mer, puisque étant belge et sa maman l'emmenant l'été, il se baignait dans des eaux glacées. Il adorait la mer, c'est un élément naturel, il buvait l'eau de mer... il était comme un poisson, vraiment comme un poisson dans l'eau. C'est le mot, l'expression est réelle là. C'est pas vraiment une métaphore. Et oui, bien sûr. Et c'était un homme de bateau à Cadaquès. Il s'était fait construire un pointu. Une fois, il avait fait tomber son célèbre couteau suisse que j'ai toujours par 40 mètres de fond. Il est allé chercher, il plongeait sans bouteille, ce qui était de la folie. Oui, vous savez, il ne se rendait pas compte. De même que quand la première fois de sa vie, il est allé faire du ski, le moniteur lui a fait faire un saut. Insensé, il aurait pu se rompre les os, mais il l'a fait. Quand il est allé passer des vacances chez Ingrid et Lars à Fjällbacka, ils avaient une île à Fjällbacka, je pense que Lars l'a toujours. Il était au sauna. Du sauna, on plongeait dans une eau qui était à 6 ou 8 degrés. Il aurait pu mourir d'une crise cardiaque, mais il l'a fait. Bon, voilà, il n'est pas mort. Voilà. Et je vous dis, de même que dans les films d'une belle, on lui tirait dessus à vraies balles. Il devait les éviter parce qu'une belle voulait voir l'impact des balles. Il avait eu beaucoup de gens qui s'étaient tués dans ces films, des figurants et tout. Eh bien, Raymond l'a fait. Et de même qu'à un moment, il était dans un canot et qu'il devait tourner, il aurait pu mourir. Une belle avait fait faire ça. Ben, il l'a fait. Oui.
J'aurais une dernière question, Madame Françoise Rouleau. Vous l'avez connu pendant 15 ans. Si vous deviez retenir une image, un moment de particulièrement poétique ou intime, ou de quoi nous parleriez-vous?
J'ai toujours dit que Raymond était mon sujet favori. Donc, ce n'est pas une image, c'est des images. L'être humain était exceptionnel. L'homme de ma vie était... C'était pas seulement une séduction physique, c'était la séduction à tout point de vue, intellectuel, physique. C'était quelqu'un de très drôle. Tout en lui me plaisait, m'enchantait. Et j'ai eu la chance d'avoir un grand amour partagé avec cet homme-là. Et une image comme ça. Ce que j'adorais, c'était le voir rentrer dans un théâtre. Il était comme un cheval qui sent l'écurie. Il était dans son élément. Il pouvait en remontrer à tous les corps de métier, du plus petit au plus grand. Il pouvait dire à chacun ce qu'il devait faire. Ça, c'était extraordinaire. Mais il y a plein d'images.
Je vous remercie beaucoup.
Merci.